Bonjour, mes frères. Je suis heureux de vous revoir tous en ce jour de sabbat. Une pièce de monnaie lâchée depuis l'Empire State Building peut-elle tuer quelqu'un? Parler aux plantes les aide-t-il à pousser? Votre langue peut-elle vraiment rester collée à un poteau gelé? Une voiture exploserait-elle si une balle touchait son réservoir d'essence? Une personne serait-elle projetée hors de ses chaussures si elle se trouvait dans une explosion? Est-il réaliste de couper une épée en deux ou une balle en plein vol à l'aide d'une autre épée? Mais de quoi parlez-vous? Rire, eh bien, ce sont des questions très réelles que les gens se posaient et qui ont finalement trouvé une réponse dans une émission intitulée MythBusters. Combien d'entre vous se souviennent de cette émission, MythBusters? C'était une émission très populaire ici aux États-Unis. Dans cette émission, les animateurs testaient différents mythes ou croyances populaires. Et cette émission était, je le répète, très populaire. Elle a été diffusée pendant environ 15 ans, puis a fini par être diffusée à l'international. Certains d'entre vous qui ne vivent pas aux États-Unis ont donc peut-être également entendu parler de cette émission, MythBusters. Mais l'émission a révélé beaucoup de choses. Et l'une des grandes révélations était la fréquence à laquelle nous acceptons des choses comme vraies ou fausses sans jamais vraiment les vérifier. Et chaque mythe, certains de ceux que j'ai abordés, certaines de ces questions extraordinaires que j'ai posées, ils les ont réellement testés. Et chacun de ces mythes, ils le testaient, et à la fin, ils rendaient leur verdict. Soit le mythe était confirmé, soit il était réfuté. C'était l'objectif de l'émission. S'il était réfuté, cela signifiait que le mythe n'était pas vrai. S'il était confirmé, cela signifiait bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'un mythe, mais d'une réalité. Mes frères, certains croient que le livre que vous avez sur les genoux, la Bible, le livre qui se trouve devant moi, certains croient que ce livre est rempli de toutes sortes de mythes. La vie éternelle, eh bien, clairement, c'est un mythe. Personne ne peut vivre éternellement. Tout le monde doit mourir, diront-ils. Ou les résurrections, une fois que vous êtes mort, c'est fini. Votre vie est terminée. Vous êtes dans la terre et on ne vous reverra ni n'entendra plus jamais parler de vous. Certains croient que c'est un mythe. Certains diraient que Dieu lui-même est un mythe. Cette personne magique dans le ciel à laquelle croient les gens faibles d'esprit, c'est certainement un mythe. Il est impossible qu'il existe. Personne ne pourrait jamais vraiment le prouver. Eh bien, mes frères, ce message va se concentrer sur ce que certains appelleraient un mythe. Et ce sujet est plus important que les pièces de monnaie, les plantes ou les balles coupées en deux par une épée. Ce soi-disant mythe est beaucoup, beaucoup plus important que cela. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, du mot ou de la compréhension du salut. Le mot être sauvé. Ces mots sauvé ou salut sont utilisés tout le temps dans la religion, et les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils signifient. Nous savons tous plus ou moins ce qu'ils signifient. Mais beaucoup dans le monde de la religion ne savent pas ce qu'ils signifient, et peut-être vous a-t-on déjà posé des questions sur le fait d'être sauvé ou sur le salut, et comment l'expliqueriez-vous si quelqu'un vous posait la question? Beaucoup comprennent ce concept d'être sauvé ou de salut, mais ils le comprennent complètement de travers. D'autres en ont une vision partielle. Ils en ont une sorte de compréhension. Mais aujourd'hui, nous allons briser certains mythes courants concernant cette idée du salut. Passons à un passage clé qui va guider notre message, Philippiens chapitre 2. Ce verset sera notre verset d'ancrage. Quelque chose qui nous motivera, même sur un sujet qui nous est si familier, cette idée d'être sauvé ou du salut. C'est néanmoins un verset d'ancrage pour nous. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, 12. Il est écrit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence. Paul parle ici de la conduite des frères. Mais voici la partie E du verset, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il est clair que ces personnes avaient au moins une assez bonne idée de ce qu'est le salut et de ce qu'il signifie. Tout comme vous tous, vous savez ce qu'est le salut et ce qu'il signifie, mais, mes frères, nous devons néanmoins travailler à notre propre salut. Chacun de nous, à titre individuel, est responsable de son propre salut. Nous devons nous approprier notre salut, nous approprier cette grâce, y travailler et l'accomplir. Non seulement nous devons l'accomplir, mais nous devons le faire avec crainte et tremblement. En d'autres termes, c'est extrêmement, extrêmement important. Le salut signifie ici le sauvetage ou la sécurité. Nous devons donc travailler à notre sauvetage. Nous devons travailler à notre sécurité. Spirituellement parlant, nous devons y travailler avec crainte ou révérence et tremblement. Mon objectif aujourd'hui est de nous aider à renouveler ou à mieux comprendre cette révérence que nous devons avoir pour notre salut. Mes frères, l'enjeu est trop important pour que nous le manquions. Donc, bien sûr, afin d'œuvrer à notre propre salut, nous devons comprendre ce qu'il est. Nous devons comprendre pleinement ce qu'est le salut et, plus important encore ou tout aussi important, ce qu'il n'est pas. Ce que le salut n'est pas. Ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Alors, brisons quelques mythes populaires concernant la chose la plus précieuse que Dieu ait mise à la disposition de l'humanité, à savoir le salut. Au fur et à mesure que nous avancerons, je partagerai probablement les réponses à certaines des questions que j'ai posées au début, lorsque j'ai préparé ce message. Vous savez, j'ai pensé qu'il valait mieux répondre à certaines de ces questions, sinon vous ne prêteriez pas attention au message. Vous penserez à toutes ces questions que j'ai posées et vous vous demanderez si elles sont vraies ou non. Donc, au fur et à mesure, je vais peut-être vous donner quelques réponses à certains de ces mythes tirés de l'émission. Mais vous devez bien sûr vous concentrer sur le plus important, qui est évidemment notre sujet d'aujourd'hui, à savoir le salut. Nous allons aborder plusieurs versets aujourd'hui, mais mon objectif est que vous soyez aussi bien préparés que possible, non seulement pour travailler à votre propre salut, ce qui est le plus important, mais aussi pour avoir une solide compréhension de ce qui peut se présenter au cours de votre vie de chrétien, lorsque vous discutez avec d'autres personnes de ce sujet très important. Très bien, mythe numéro 1. Le mythe dit, si je crois en Jésus, je suis chrétien. C'est le premier mythe. Si je crois en Jésus, alors je suis chrétien. Ce mythe est extrêmement répandu. Je commence par là, car il est à l'origine de la mauvaise compréhension qu'ont beaucoup de gens du salut. Il touche vraiment au cœur du christianisme et du salut. Mais professer sa foi en Jésus est peut-être la définition la plus répandue du christianisme. Je crois en Christ. C'est ce qui fait de moi un chrétien. Dites une prière, acceptez Jésus. Dans certaines églises, vous vous avancez, vous professez votre foi en Jésus devant un groupe de témoins, et hop, vous êtes désormais chrétien. Eh bien, l'origine de ce mythe est largement ancrée dans beaucoup d'émotivité et d'expériences émotionnelles. Vous savez, bien sûr, que faire partie de l'Église de Dieu et être chrétien comporte évidemment un élément émotionnel. Mais c'est cette idée, ce mythe selon lequel il suffit de professer sa foi en Christ, qui repose en grande partie sur l'émotion, la tradition de l'Église et un certain nombre de passages isolés des Écritures, tels que celui qui suit. Ouvrez votre Bible au chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Nous allons examiner un verset qui est souvent mal compris et interprété comme signifiant qu'il suffit de professer sa foi en Christ. Chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Lisez-le ici. Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, 9. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tada. Je suis sauvé. Je professe Jésus. Je crois dans mon cœur. Verset 10. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour être justifié, et c'est avec la bouche que l'on fait confession pour être sauvé. Nous voyons donc ici le salut. Vous confessez Christ, vous êtes sauvé. Si vous croyez dans votre cœur, vous avez maintenant le salut. Bien sûr, ce verset est vrai. Il est dans la Bible. Bien sûr, il est vrai. Il doit être vrai. Mais clairement, mes frères, et de toute évidence, il ne dit pas tout. Ouvrez votre Bible au chapitre 11 des Actes. Être chrétien ne se résume pas à ce que vous dites. C'est aussi la façon dont vous vivez. Chapitre 11 des Actes. Nous venons de rentrer de la fête. Nous avons tant appris, mes frères, tant sur notre avenir, tant sur le royaume de Dieu et toutes les choses merveilleuses qui arriveront au monde, tant de choses que Dieu nous utilisera pour enseigner. Eh bien, réfléchissons aux bases. L'un des grands avantages de la fête, c'est qu'elle nous donne l'occasion de revenir aux fondamentaux. C'est ce que nous faisons ici. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, 26. Mais Pierre. Attendez, excusez-moi, c'est 10, je vais voir. Actes 10, 26. Actes chapitre 11, plutôt, 26. On peut lire, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche, et il arriva qu'une année entière, ils se réunirent. Excusez-moi. Se réunir avec l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, un chrétien est un élève ou un disciple, et si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes un élève, un disciple ou un imitateur de Jésus-Christ. Il est donc évident que Christ ne se contentait pas de confesser certaines choses et de dire certaines choses. Bien sûr, il a dit beaucoup de choses, mais il avait manifestement un certain mode de vie. Il avait un certain mode de vie, et les disciples suivaient ce mode de vie. Cela va donc au-delà d'une simple confession. Je peux me qualifier de pilote d'avion, je suis pilote d'avion. Mais si je n'ai absolument aucune idée de la façon de piloter un avion, cela ne fait pas de moi un pilote. Je peux me qualifier de chrétien toute la journée, mais si je ne fais pas les choses, si je n'imite pas et ne fais pas les choses que Jésus-Christ a faites ou ne suis pas Christ, alors je ne suis chrétien que de nom. Premier épître de Jean, chapitre 2. Nous brisons le mythe selon lequel il suffit d'une simple confession pour être considéré comme chrétien. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Premier épître de Jean, 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi. Faire quoi? Marcher comme il a marché. Si nous disons que nous demeurons en Christ, que nous sommes chrétiens, nous devons marcher comme Christ a marché. Vous remarquez qu'il est dit, celui qui demeure en lui doit aussi marcher. Vous pouvez donc dire que vous demeurez en Christ, c'est bien, mais nous devons aussi marcher comme lui, et pas seulement parler comme lui. Mes frères, nous ne pouvons pas nous contenter de professer le christianisme du bout des lèvres. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous disons, mais aussi quelque chose que nous faisons. Apparemment, cette idée ou cette simple profession de foi en Jésus-Christ n'est pas quelque chose de nouveau. Apparemment, C'était déjà un problème à l'époque du Christ. Luc chapitre 6. Les gens reconnaissent rapidement les avantages. Ils reconnaissent rapidement les avantages de se dire chrétiens, mais ce qui semble leur manquer, c'est la compréhension que cela va au-delà d'une simple profession de foi. Luc chapitre 6, verset 44. Car tout arbre est connu par son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, ni des raisins sur des ronces. En entendant beaucoup plus parler des raisins, cette compréhension s'est vraiment ouverte récemment, mes frères. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de elle, de l'abondance de la bouche que parle son cœur. Nos bouches peuvent dire une chose, mes frères, mais c'est aussi notre cœur qui parle. Ces deux choses peuvent être en contradiction, ce qui sort de notre bouche et ce qui sort de notre cœur, ou elles peuvent être en harmonie. Verset 46, voici le problème. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus-Christ l'a dit très clairement, un vrai disciple, un véritable disciple, ne se contente pas de professer sa foi en lui. Mes frères, nous ne pouvons pas nous contenter de professer notre foi chrétienne. Nous devons également obéir. Dire que nous sommes chrétiens sans obéir et sans faire ce que Christ a dit a des conséquences désastreuses. Ouvrez votre Bible à Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Pourquoi Christ revient-il sans cesse sur ce point? Pourquoi évoque-t-il cette idée que les gens peuvent dire qu'ils sont chrétiens, Seigneur, Seigneur, qu'ils reconnaissent Christ pour ce qu'il est? Mais il dit ici, pour revenir au verset, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Imaginez quelqu'un qui porte un uniforme militaire. L'uniforme est bien repassé, il est propre, il a des médailles, tout est en place, il a l'air impeccable. Il porte l'uniforme, mais il ne s'entraîne jamais, il ne reçoit jamais d'ordre, il ne fait jamais ce que l'armée lui demanderait de faire. Cette personne est-elle un soldat? Non, elle porte simplement l'uniforme. Mes frères, si nous nous appelons simplement chrétiens et que nous ne faisons pas ce que Christ dit, sommes-nous des soldats de Jésus-Christ, ou portons-nous simplement l'uniforme? Ce sont des principes fondamentaux. Ce sont des principes fondamentaux, mais ils sont clairement importants. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? La Bible définit-elle réellement ce qu'est un chrétien? Bien sûr que oui. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'un chrétien? Romains chapitre 8, verset 14. Vous l'avez peut-être marqué dans votre Bible, je l'ai marqué dans la mienne, c'est un verset très fondamental. Qu'est-ce qu'un chrétien? Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frères et sœurs, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu pour être considérés comme fils et filles de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu, ce n'est pas simplement une profession de foi. Une profession de foi est une bonne chose, elle en fait partie, mais cela doit être bien plus que cela. Le christianisme exige que nous marchions comme Christ a marché. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, être guidés par l'Esprit de Dieu, que ce soit l'Esprit de Dieu en nous, ce qui est le but ultime en tant que membres baptisés, ou l'Esprit de Dieu qui œuvre avec nous pour nos jeunes et les personnes qui sont des membres potentiels et qui nous rejoignent. Dans les deux cas, nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. Être guidé signifie que nous devons suivre, Imiter et faire ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions. Maintenant que nous avons défini ce qu'est le vrai christianisme, nous devons l'explorer. Nous pouvons maintenant commencer à explorer ce que signifie réellement être sauvé. Mais avant cela, qu'en est-il de cette pièce de monnaie lâchée depuis l'Empire State Building? Peut-elle réellement tuer quelqu'un? Eh bien, ils ont essayé dans l'émission, et il s'avère que ce mythe a été démenti. Une personne ne peut pas être tuée par une pièce de monnaie lâchée depuis l'Empire State Building. Même si celui-ci est très haut, elle ne peut pas être tuée. La pièce est tout simplement trop légère. Il n'est pas assez lourd. Il prend de la vitesse, mais il n'est pas assez lourd pour causer des dommages mortels s'il venait à heurter quelqu'un après avoir été lâché depuis l'Empire State Building. Il pourrait peut-être causer une petite douleur ou laisser une marque sur la peau, mais il ne tuerait personne. Très bien. Mythe numéro 2. Je suis déjà sauvé. J'ai été sauvé il y a 5, 10, 20 ans. Je suis déjà sauvé. Je suis prêt. Ce mythe selon lequel on est déjà sauvé, que c'est une chose accomplie, c'est la croyance que le salut est quelque chose que l'on reçoit en un seul instant. Bon, je suis sauvé. J'ai terminé. Je suis prêt à partir. L'origine de ce mythe, cette idée que le salut se produit en un seul instant, en une seule transaction, provient de nombreuses interprétations de plusieurs versets, mais la Bible utilise en fait le mot « sauvé » dans trois temps, et il est important de le comprendre. C'est un élément fondamental de cette doctrine, mes frères. La Bible utilise le mot « sauvé » dans trois temps, passé, présent et futur. Il y a donc un élément passé, présent et futur dans cette idée d'être sauvé ou de salut. Analysons cela. Romains chapitre 5. Le salut ou le fait d'être sauvé comporte différents temps ou éléments. Romains chapitre 5, verset 10. Nous allons immédiatement voir que cette croyance selon laquelle le salut s'accomplit en un seul instant va être remise en question dès le début, à partir de ce seul verset. Romains chapitre 5, verset 10. Lisons. Romains 5, verset 10 dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» Attendez une minute. Je pensais que nous étions déjà sauvés. Il est dit ici, nous serons sauvés par sa vie. C'est un temps futur. Cela ne s'est pas encore produit. Nous avons encore des choses à faire. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1. Nous remettons en question ce mythe selon lequel je suis déjà sauvé. C'est un événement unique. Tout est fini. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1. Verset 18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » C'est intéressant. Il est dit « sauvé ». Oh, tout est fini, n'est-ce pas? Mais quand on examine la signification du mot « sauvé », il s'agit en fait d'être sauvé. La New King James Version donne en fait la traduction correcte. Il s'agit en fait d'être sauvé. Cela devrait donc être rendu à la fin du verset, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'être sauvés. C'est le présent. Il devrait donc être tout à fait clair, mes frères, que le christianisme est un processus. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement unique. Romains 13. Romains chapitre 13. Le christianisme est un processus, pas un événement ponctuel. Romains 13, verset 11. Et cela, sachant le temps, qu'il est maintenant grand temps de nous réveiller de notre sommeil. Réveillez-vous. On nous exhorte et on nous dit de nous réveiller, de sortir de notre torpeur, d'être attentifs, de veiller. Il est grand temps de nous réveiller de notre sommeil. Pourquoi? Car maintenant notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Alors, quand nous avons cru pour la première fois et que nous sommes devenus chrétiens, devinez quoi? Notre salut, notre but, notre objectif final, est maintenant plus proche que lorsque nous avons commencé ce voyage dans le christianisme. Bien sûr, avec le temps qui passe, il est plus proche qu'il ne l'était lorsque nous avons commencé le voyage. Donc, le message est le suivant, réveillez-vous, soyez attentifs, concentrez-vous. Il est grand temps de se réveiller, car notre salut est plus proche. Mes frères, des versets comme celui-ci nous rappellent que nous avons du travail à faire. Notre salut est plus proche que lorsque nous sommes descendus pour la première fois dans les eaux baptismales, ou lorsque nous avons lu notre premier livret, ou lorsque notre esprit s'est ouvert pour la première fois à Dieu afin de comprendre ses vérités. Imaginez que vous courez, que vous vous entraînez pour un marathon. Vous vous êtes inscrit, vous avez tout préparé, vous avez acheté vos chaussures, vous vous êtes entraîné pour la course. Le jour de la course est arrivé, vous vous êtes même présenté à l'heure, et lorsque le coup de feu a retenti, vous avez commencé à courir. Tout se passe bien. Mais avez-vous terminé la course? La course est-elle terminée? Ou êtes-vous simplement en train de vous diriger vers cet objectif? Qui, dans ce cas, dans l'analogie, est le salut? Le processus du salut, comme je l'ai mentionné, mes frères, comporte trois phases. Ouvrez votre Bible au chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens. C'est une compréhension précieuse. Ce mythe selon lequel je suis déjà sauvé, c'est un événement unique. Nous brisons ce mythe, et nous le faisons en utilisant la parole de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. « Et tels étaient certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés par elle, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Il est donc dit que nous sommes sanctifiés et justifiés. Romains, chapitre 8. Ouvrez votre Bible au chapitre 8, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance. Nous interrompons ici la pensée. Il s'agit du processus du salut. Car ce. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le. Quoi? Premier-né parmi plusieurs frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous voyons à nouveau ce mot, justifié. Et puis, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes frères, nous venons de couvrir, entre ces deux versets, 1 Corinthiens et Romains chapitre 8, les trois phases du salut. Il y a la justification, la sanctification et la glorification. Je vais le répéter pour que vous puissiez le noter. Les trois phases du salut sont la justification, la sanctification et la glorification. La justification concerne les péchés passés. Dieu pardonne les péchés passés, et nous commençons le processus du salut. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. À partir de là, cela concerne le passé, en ce qui concerne le salut. Le présent, c'est la sanctification. C'est le processus continu de croissance, de changement et de victoire sur le péché. C'est cela la sanctification. C'est être mis à part, séparé de ce monde, de l'esclavage du péché. Nous sommes sanctifiés ou séparés du monde. Nous sommes mis à part. C'est le présent, en ce qui concerne le salut. Qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, c'est la glorification. La glorification est l'avenir, lorsque vous serez transformé, finalement transformé en esprit, au retour de Jésus-Christ. C'est la phase finale du salut. Mes frères, pour nous, nous sommes transformés lorsque le Père vient. C'est la phase finale du salut. Vous avez donc la justification, qui concerne le passé, la sanctification, qui concerne le présent, et la glorification, qui concerne l'avenir. Mes frères, le plan de Dieu est magnifique. Le plan de Dieu est magnifique. Il voudrait que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. À l'heure actuelle, frères et sœurs, nous traversons ce processus de salut. Nous avons été justifiés. Christ est mort pour nos péchés. Nos péchés passés ont été pardonnés. Nous sommes actuellement sanctifiés. Nous sommes séparés et mis à part du monde. Notre but est d'être glorifiés. Et la beauté du plan de Dieu réside dans le fait qu'il accomplit ces phases et qu'elles seront accessibles à tous. Pour nous, avant le retour du Père, avant le retour de Dieu, nous sommes au milieu de ce processus. Mais pensez au royaume d'Israël, où les saints, ceux qui n'étaient pas prêts, auront l'occasion de passer par ce processus. En fin de compte, au cours du millénium, ceux qui ne sont même pas encore nés passeront par ce même processus, un processus que nous connaîtrons tous très bien. Non seulement après un message comme celui-ci, bien sûr, mais aussi parce que nous l'avons nous-mêmes vécu. Les trois étapes, la justification, la sanctification et la glorification, font partie d'une véritable compréhension du salut et du fait d'être sauvé. Le salut n'est donc pas un événement ponctuel. Une fois que vous avez commencé le voyage, vous devez rester sur le chemin. Avant de passer au mythe suivant, parlez aux plantes, peut-il les aider à pousser? Je suis sûr qu'il y a des amateurs de plantes parmi vous. Ils ont décidé d'aborder ce sujet dans l'émission. Parlez aux plantes, peut-il les aider à pousser? Eh bien, mes amis, cela a été confirmé. Cela a été confirmé. Les plantes exposées à des sons, quels qu'ils soient, dans ce cas précis, je suppose qu'il s'agit de leur parler, ont mieux poussé que celles exposées au silence. Les scientifiques n'ont pas encore compris le mécanisme derrière ce phénomène, s'il s'agit des ondes sonores ou des vibrations, mais les plantes exposées à des sons poussent effectivement un peu mieux que celles qui ne le sont pas. Donc, si j'entre dans une pièce et que je vous vois parler à une plante, je ne penserai plus que vous êtes fou. Rire, je me dirai, hey, tu sais quoi, tu es juste un homme qui cherche à obtenir une croissance abondante avec cette plante. Ne pas parler aux plantes. Eh bien, non, cela va. Ça va. Très bien, mythe numéro 3, le salut s'obtient. Vous pouvez gagner votre salut. Maintenant, j'ai en quelque sorte renversé ce mythe. C'est une accusation dont, franchement, beaucoup d'entre nous dans l'Église de Dieu sommes accusés de croire. Nous croyons que vous pouvez gagner votre salut. Les gens disent, vous savez quoi, ces pauvres chrétiens, ces pauvres gens dans l'Église de Dieu. Ou peu importe comment ils nous appellent, vous savez, restaurés ou autres. Ces pauvres gens pensent qu'on peut gagner le salut. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Eh bien, en fait, vous avez raison. On ne peut pas gagner le salut. Le problème n'est pas que nous prétendions gagner le salut. Ce n'est pas la question. Mais ils associent l'obéissance à la loi de Dieu au légalisme. On nous accuse d'être légalistes, et c'est péjoratif. Mais ce qu'ils disent, c'est que si nous respectons la loi de Dieu, si nous nous efforçons de respecter la loi de Dieu, Nous essayons de gagner notre salut, qui serait basé sur nos œuvres. Ce n'est évidemment pas vrai, mais ironiquement, ceux qui s'y opposent, qui rejettent l'obéissance, pensent que ce sont les mêmes personnes qui pensent que vous avez gagné le salut dès que vous avez cru. Ainsi, ces mêmes personnes qui diront « Oh, eh bien, vous êtes légaliste », se retourneront et penseront « Eh bien, si vous professez simplement le salut, vous avez gagné votre salut. » Tout devient confus. Tout devient embrouillé. Mais tournez-vous vers Éphésiens 2. Nous n'avons jamais, jamais prétendu mériter le salut. Cela n'a jamais été ce que nous croyons et ce que l'Église de Dieu enseigne. Le faire reviendrait à nier de nombreux passages des Écritures, y compris celui-ci. Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Il n'est pas question ici de gagner le salut en suivant la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Peut-on gagner un don? Dès lors que vous gagnez un don, ce n'est plus un don. C'est désormais une compensation. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh là là, je respecte si bien la loi de Dieu que je gagne mon salut. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous avez donc ceci. Les versets que j'ai lus, cette idée que nous sommes sauvés par la grâce ou par la grâce par la foi, non par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas gagner notre salut, mais que nous sommes néanmoins l'œuvre de Dieu et que nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Nous avons donc encore du travail à faire. Comment tout cela peut-il fonctionner ensemble? Le salut est clairement appelé un don, mais les œuvres sont impliquées. Eh bien, mes frères, ce don doit être accepté, entretenu et mis à profit. Vous pouvez me faire un cadeau, je peux l'ouvrir, et il reste là, dans sa boîte. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne m'en suis jamais servi. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 25. Deuxième épître à Timothée, 2, 25. Dans la douceur, instruis ceux qui s'imposent, si Dieu leur donne peut-être la repentance. C'était le point central. Leur donne la repentance pour la reconnaissance de la vérité. Frères et sœurs, qu'est-ce que la repentance? C'est changer. C'est cesser de faire une chose et commencer à en faire une autre. C'est très personnel. C'est quelque chose que nous devons faire. Mais le verset nous dit que même cela, même le désir et la connaissance et le désir de changer, cela vient de Dieu. Nous ne pouvons même pas nous en attribuer le mérite. Simplement reconnaître, vous savez quoi, j'ai fait une erreur. Cela doit même venir de Dieu. Mes frères, ceux d'entre nous qui savent que Dieu veut l'obéissance comprennent que ce n'est pas de nous-mêmes que nous tirons non seulement cette connaissance, mais aussi le désir d'obéir. Le salut ne se mérite pas. C'est un don. Mais cela ne signifie pas que les œuvres ne sont pas importantes. Jacques, chapitre 2. Le don du salut. Le salut lui-même est un don, mais nous devons mettre ce don à profit. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous allons le repérer ici, Jacques 2, 17. Ces versets font trébucher de nombreux théologiens de l'aile. De même, la foi. Verset 17, de même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Si vous, moi, n'importe qui, disons avoir la foi mais n'avons pas d'œuvre, cette foi est morte. Elle est sans vie. Verset 20, mais veux-tu savoir, homme vain. Homme vain. Homme inutile. Que la foi sans les œuvres, encore une fois, est morte. Verset 24. Tu vois donc que c'est par les œuvres qu'un homme est justifié. Nous retrouvons ici cette expression, mais pas par la foi seule. Nous n'avons jamais prétendu, l'Église de Dieu n'a jamais prétendu, Dieu n'a jamais prétendu dans les Écritures que le salut s'obtient. Que le respect de la loi permet en quelque sorte d'obtenir le salut. Mes frères, une bourse d'études est différente d'un diplôme. Une bourse d'études pour l'université est différente de l'obtention d'un diplôme et de la fin des études universitaires. Le salut est la bourse d'études. On nous a donné la possibilité d'aller à l'université. Elle a été payée. Toutes les dépenses ont été prises en charge, mais nous avons du travail à faire. Nous devons étudier. Nous devons aller en cours. Nous devons passer les examens. Nous devons réussir les examens. Nous devons aller voir le professeur si nous avons besoin d'aide. Si nous continuons à faire cela, devinez quoi? Nous recevons alors le diplôme. Il y a une grande différence. L'obéissance ne nous vaut pas le salut. L'obéissance est simplement une démonstration de la foi qui nous a été donnée par la grâce de Dieu. Est-ce clair? L'obéissance est une démonstration de la foi que nous avons reçue par la grâce de Dieu. C'est notre réponse à ce don. Quelle importance revêt ce don pour nous tous? Il y a une grande différence. Avant de passer au mythe suivant, nous avons déjà abordé plusieurs mythes depuis le début. La langue d'une personne peut-elle rester collée à un poteau gelé? Nous allons répondre rapidement à cette question. Oui, cela m'est arrivé. Cela fait longtemps. Je ne le recommanderais pas. Cela peut réellement se produire. L'humidité de la langue gèle très rapidement si vous la collez à un poteau. Encore une fois, je ne le recommande pas. C'est très douloureux. Cela donne probablement envie à certains de nos jeunes, à nos très jeunes enfants, d'essayer. Je veux essayer. N'essayez pas. Votre langue peut rester collée à un poteau gelé. L'hiver arrive. Encore une fois, n'ayez pas d'idée. Mythe numéro 4. Une fois sauvé, toujours sauvé. Combien d'entre vous ont déjà entendu cela? Une fois sauvé, toujours sauvé. Ce mythe est réconfortant. Oh là là, une fois que je suis sauvé, tout va bien. Personne ne peut me l'enlever. C'est un mythe réconfortant, mais mes frères, il est très dangereux. Il est très dangereux. Aussi séduisant soit-il, il est très dangereux. Il est séduisant parce qu'il élimine la peur de l'échec, la peur que le salut puisse vous être retiré d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une mauvaise interprétation de versets comme Jean 10. Allons-y. Jean chapitre 10. C'est intéressant. On y voit la main du diable. Beaucoup utilisent souvent des versets tirés de la Bible elle-même, qui contient la vérité. Ils utilisent des versets, mais ils les comprennent mal ou les déforment, en disant « Eh, regardez, c'est dans la Bible. » Oui, mais ce n'est pas ce que cela signifie. Jean 10. Je vais vous donner un exemple. Jean chapitre 10, verset 28. Ce verset est souvent utilisé pour justifier cela, une fois sauvé, toujours sauvé. Jean 10, 28. Il est dit, et je leur donne. C'est Christ qui parle. Je leur donne la vie éternelle, afin qu'ils ne périssent jamais, et que personne ne les arrache de ma main. Personne ne peut donc les m'enlever. Verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Mes frères, ce que cela signifie, c'est qu'une personne ne peut être arrachée de la main de Jésus-Christ ou de la main du Père. J'ai entendu dire que c'était comme si vous aviez un pied dans la main du Christ et un pied dans la main du Père. Personne ne peut vous retirer de leurs mains. Et ces versets sont vrais. Ils sont beaux et merveilleux à méditer, mais cela ne... Ces versets n'annulent pas les centaines d'avertissements dans les Écritures concernant la chute, l'éloignement, le retour en arrière ou la disqualification. Ces deux versets que j'ai lus, cette incapacité d'être arraché ou retiré de la main du Père et du Christ, ces versets ne nient pas tous les versets qui disent que nous pouvons échouer. Matthieu 24. Mes frères, nous pouvons échouer. Bien sûr, nul ne peut nous arracher de la main de Dieu, mais nous pouvons échouer. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ou recevra le salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, cela pose une condition. Il faut de la persévérance pour y parvenir. Apocalypse chapitre 3. Nous voyons ici qu'il est possible, si cela dit que vous devez persévérer jusqu'à la fin, cela vous dit qu'il est possible de ne pas persévérer jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est une image intéressante. Vous avez ce livre avec des noms et la promesse de ne pas effacer votre nom de ce livre. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les noms qui figurent dans ce livre seront confessés devant Dieu et les anges. Comment votre nom peut-il être effacé si vous êtes sauvé une fois pour toutes? Oh, je suis inscrit dans le livre. Mon nom est permanent. Pas si vite. L'Apocalypse dit que votre nom peut être effacé. Mon nom peut être effacé. Une fois sauvé, toujours sauvé, cela ne tient pas la route. Quel sens cela a-t-il de commencer le chemin vers le salut et d'être disqualifié? Hébreux chapitre 6. Cela n'a aucun sens de commencer un chemin et d'abandonner, d'être disqualifié. Hébreux chapitre 6 verset 4. Car il est impossible. Écoutez ceci, frères, c'est un avertissement. Il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont été rendus participants du Saint-Esprit. Maintenant, nous commençons juste, c'est impossible. Verset 5. Et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. On a montré le chemin à ces personnes, et elles l'ont vu. Leurs yeux ont été ouverts, mais c'est impossible malgré tout cela. Verset 6. S'il tombe. Attendez une minute, je pensais que c'était une fois sauvé, toujours sauvé. S'il tombe, comment les renouveler à nouveau pour la repentance, puisqu'ils... Que font-ils? Crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Saviez-vous, mes frères, qu'il est possible de crucifier Christ à nouveau? Cette onde qu'il a subie, nu, battu, torturé devant sa création. Saviez-vous qu'il était possible de refaire tout cela? Eh bien, oui, c'est possible. Si nous acceptons cela et le rejetons, les versets sont clairs. Les versets sont clairs. Le point principal est que c'est possible. Ceux qui disent qu'une fois sauvés, toujours sauvés ne comprennent pas que cela est certainement possible. C'est comme sauter sur, monter à bord d'un bateau, vous savez, partir en croisière. Vous montez à bord, vous êtes passager, vous avez votre cabine, votre billet, votre formule repas, vous avez même votre gilet de sauvetage et tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes en voyage, tout se passe bien. À mi-chemin, vous sautez du bateau et vous nagez loin. Vous n'irez probablement pas très loin. Mais, mes frères, vous n'arriverez jamais à destination. À quoi bon monter à bord du bateau? Pour sauter à mi-chemin ou à un moment donné du voyage, nager loin et ne jamais arriver à destination. Mes frères, Dieu ne vous forcera pas à rester sur ce chemin. Il ne me force pas à rester sur ce chemin qui mène au salut. C'est un choix. C'est un choix. Dieu nous a fait un don, mais c'est à nous de choisir si nous voulons l'accepter et l'utiliser. C'est ainsi que Dieu procède. Il ne nous force pas à accepter le salut. Il peut nous faire vivre diverses expériences, positives ou négatives, pour nous inciter à rester sur le chemin, mais Dieu ne nous force pas à rester sur cette voie. Même Paul savait qu'il pouvait être disqualifié. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9. L'apôtre Paul savait qu'il pouvait être. Tout d'abord, il savait que la disqualification était possible et qu'il pouvait en faire partie. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9. Bien qu'il fût apôtre, il était enseignant. Il se tenait devant l'assemblée et s'adressait aux membres. Il se tenait responsable. Il reconnaissait ses propres capacités et ses faiblesses. À combien plus forte raison devrions-nous le faire, frères ? 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps. » Paul parle ici de lui-même. « Je traite durement mon corps et je le réduis en servitude. » Cela demande de la discipline, sinon pourquoi ? De peur que, après avoir prêché aux autres, j'y ai consacré toute ma vie. J'ai renoncé à ma vie. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Dans ce cas, en tant qu'apôtre, il prêchait et enseignait aux autres. Après avoir prêché aux autres, je serai moi-même réprouvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une fiction. Si Paul pouvait être disqualifié en tant qu'apôtre, un homme de cette stature, mes frères, à combien plus forte raison cela pourrait-il s'appliquer à nous ? Cela s'applique à nous. Nous devons également nous soumettre. Nous devons également faire preuve de discipline pour y parvenir. Une fois sauvé, toujours sauvé est certainement un mythe qui a été démenti. Pour répondre à la question la plus importante qui vous préoccupe tous, une voiture peut-elle exploser si une balle touche le réservoir d'essence ? C'est peut-être un truc de gars, dans les films d'action, on voit la balle toucher la voiture et boum, elle explose. Est-ce possible ? Eh bien, ils ont essayé dans l'émission Mythbusters, et ce mythe a été démenti. Il suffit de tirer sur un réservoir d'essence, malgré le drame hollywoodien et la scène du film, une balle n'enflammera pas un réservoir d'essence dans des conditions normales, elle le traversera donc ou restera coincée au milieu. Espérons, mes frères, que ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous soucier dans notre vie quotidienne, mais quoi qu'il en soit, mythe numéro 5. Revenons à nos moutons. Mythe numéro 5. Jésus a respecté la loi à ma place. Jésus a respecté la loi à ma place. Celui-ci est similaire à une fois sauvé, toujours sauvé. C'est un mythe qui sème la confusion chez beaucoup de gens. Jésus a respecté la loi à ma place. Il est notre sauveur. C'est très courant dans le christianisme, chez ceux qui se disent chrétiens, et c'est souvent utilisé, encore une fois, comme excuse pour ne pas obéir à Dieu. Les gens disent, « Vous savez quoi ? Je ne peux pas respecter la loi. C'est impossible de respecter la loi. Si vous en enfreignez une, vous les enfreignez toutes. » Vous avez entendu ce verset, et il est basé sur les Écritures. « Je ne peux pas respecter la loi. » Mais ce n'est pas grave, Christ l'a respecté pour moi. Jésus-Christ a respecté la loi pour moi, donc je suis tranquille. Cela semble humble, cela semble même spirituel. Jésus-Christ a respecté la loi pour moi. J'ai cette relation étroite avec Christ, mais en vérité, mes frères, c'est l'un des éléments les plus trompeurs de la mauvaise compréhension du salut qui puisse exister. Ouvrez votre Bible à Matthieu 5, verset 17. C'est un verset que beaucoup utilisent pour justifier ce mythe. Matthieu 5, verset 17. Il est dit, « Ne croyez pas. » C'est Christ qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Fermez votre Bible. Christ a observé la loi pour moi. Il a accompli la loi pour moi. L'idée est que, puisque Christ a parfaitement observé la loi à notre place, nous n'avons pas à l'observer. Sa justice, la justice du Christ, est attribuée à ceux qui croient en lui. C'est là où ils veulent en venir avec cette croyance. Je n'ai donc pas besoin de changer ou d'obéir, Christ l'a fait pour moi. C'est génial, le christianisme est formidable. Eh bien, mes frères, nous devons continuer à lire. Nous devons continuer à lire, nous n'avons même pas besoin d'aller ailleurs, continuons simplement à lire. Verset 18, nous avons commencé au verset 17, car, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Oh, oh, pourquoi parle-t-il de la loi? Je croyais qu'il l'avait observée pour moi. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Verset 19, oh là là, quiconque donc enfreindra l'un de ses plus petits commandements. Pourquoi parlons-nous d'enfreindre les commandements? Je croyais que Christ les avait observés pour moi. Quiconque donc enfreindra l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même. Les ministres de ce monde. Il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les accomplira et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Christ a accompli la loi, non pas en l'annulant, mais en la vivant parfaitement. Et il nous dit que nous devons faire de même. Nous devons enseigner et obéir même au plus petit de ses commandements. Premier épître de Jean, chapitre 2. J'aime revenir à l'essentiel, mes frères, comprendre les doctrines et les choses qui m'ont enthousiasmé à l'idée d'être chrétien, un vrai chrétien, d'entrer dans l'Église de Dieu. Ces versets se trouvent dans votre Bible, dans ma Bible. Ils sont là. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 3, « Et par cela nous savons que nous le connaissons, si nous faisons quoi ? Gardons ses commandements. Nous connaissons donc le Père, nous connaissons Christ, si nous faisons quoi ? Si nous gardons ses commandements. » Verset 4, « Celui qui dit, « Je le connais. Je connais Dieu. » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Pour connaître Dieu, nous devons garder ses commandements. Christ a gardé la loi pour moi. Non, nous devons garder les commandements pour connaître Dieu. Il n'y a pas de place pour l'idée que Christ peut obéir à Dieu à votre place. L'obéissance est personnelle. Jean 15. L'obéissance est personnelle. Obéir à la loi est quelque chose que nous devons faire à un niveau individuel. Et c'est personnel. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ainsi, non seulement vous connaissez Dieu, mais vous demeurez aussi dans l'amour de Dieu si vous gardez ses commandements. Jésus-Christ a observé la loi pour moi. C'est impossible. De même que moi. Christ poursuit en disant, « De même que j'ai observé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Tout le sens de sa déclaration selon laquelle il a accompli la loi était de dire qu'il l'avait fait. Il a accompli l'amour de Dieu en observant ses commandements. et il nous dit simplement de faire de même. Accomplir la loi de Dieu, connaître Dieu en observant ses commandements. Frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons faire à titre personnel. Il est impossible pour Christ d'observer la loi à notre place. Quand on y réfléchit, cela n'a même pas de sens. Galates chapitre 2, verset 16, « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, qui croyons en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Beaucoup prennent ce verset et le comprennent mal. Ils disent, « Voyez-vous, que voulez-vous dire ? Nous ne pouvons être justifiés par les œuvres de la loi. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il faut. Et à quoi bon respecter la loi ? Parce que nous ne pouvons être justifiés par les œuvres de la loi. Et c'est vrai. Encore une fois, c'est dans la Bible. Il est vrai que vous ne pouvez être justifiés par les œuvres de la loi. Mais souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Qu'est-ce que la justification ? C'est traiter les péchés passés. Mes frères, si je commence à obéir à Dieu maintenant, cela ne traite pas automatiquement les péchés passés. Les péchés passés sont traités par la justification par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour ses péchés. C'est ainsi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas parce que j'obéis à partir de maintenant, ce que je dois certainement faire, que je n'ai plus à m'occuper de mon passé. Si j'ai tué quelqu'un et que cela n'a jamais été réglé, mais que j'ai cessé de tuer d'autres personnes, eh bien, je dois quand même m'occuper de mon passé. Mon passé doit encore être réglé. C'est là qu'intervient la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de connaître la signification des mots. La justification traite du passé. Nos péchés doivent être effacés. Cela passe par la foi en Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec les œuvres de la loi pour aller de l'avant. Et les œuvres de la loi, ce terme, les œuvres de la loi, qui traite principalement des observances rituelles et cérémonielles, et non des 10 commandements. Les œuvres de la loi. Très important. Mais celle-ci renvoyait à un principe plus grand, les principes illustrés par les 10 commandements. Ces œuvres de la loi, ces rituels, ces observances cérémonielles ont été éliminées par la mort du Christ. Traitant des péchés passés, ce qui justifie, être justifié. Mais mes frères, nous devons aller de l'avant dans l'obéissance. La Bible n'a jamais enseigné que l'obéissance aux 10 commandements n'était pas nécessaire. La Bible n'a jamais enseigné que vous pouviez adorer d'autres dieux maintenant que Christ est mort, ou que vous pouviez servir et vous prosterner devant des idoles, ou utiliser son nom en vain, ou enfreindre le sabbat, ou manquer de respect à vos parents, ou tuer, commettre l'adultère, voler, mentir et convoiter parce que Christ est mort pour moi. Cela n'a aucun sens. Je me souviens qu'un pasteur d'une église mondaine a essayé de m'expliquer cela. Une fois que vous êtes accepté par Dieu, Christ a observé la loi pour vous, jeune homme. Christ a observé la loi pour vous. Une fois sauvé, toujours sauvé. J'ai répondu, « Monsieur, je ne comprends tout simplement pas cela. » Et la conversation est devenue ridicule. J'ai simplement dit, « Vous savez quoi ? D'accord. Et si je rejetais Dieu, si je le rejetais catégoriquement, et que je disais simplement, « Vous savez quoi ? Dieu, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, après m'être engagé envers lui. » Que se passerait-il alors ? Oh, eh bien, vous êtes sauvé. Vous ne pouvez pas revenir sur sa parole. J'ai dit, je peux simplement rejeter complètement Dieu, ne plus vouloir avoir affaire à lui, et il est obligé de me sauver. Oui, c'est ce que dit la Bible. Il était clair que je devais quitter cette église. Vous ne pouvez pas substituer les efforts de quelqu'un d'autre à votre propre responsabilité. Christ ne peut pas respecter la loi à ma place. Rire, non, c'est à moi de respecter la loi. Les hommes le savent. Je ne peux pas choisir la personne la plus vertueuse de mon entourage et lui dire « Hé, tu sais quoi ? Respecte la loi à ma place. Ne roule pas trop vite. Paye tes impôts. Ne vole pas. Fais cela pour moi. Ensuite, je vais faire tout ce que je veux. Quand je me ferai prendre, attends une minute. » Il l'a respecté à ma place. C'est ridicule. C'est ridicule. Peut-être aussi ridicule que la question suivante de Miss Busters. Peut-on être projeté hors de ses chaussures lors d'une explosion? Peut-on être projeté hors de ses chaussures lors d'une explosion? Eh bien, cela a été confirmé. Une personne peut être projetée hors de ses chaussures lors d'une explosion, en quelque sorte. Dans certaines circonstances, vous pouvez être projeté hors de vos chaussures lors d'une explosion, et cela peut arriver. La force est suffisante pour projeter une personne hors de ses chaussures. Très bien, continuons. Maintenant que nous comprenons que personne ne peut respecter la loi à notre place, mythe numéro 6, nous continuons en disant que nous sommes sous la grâce et que la loi ne s'applique donc pas. Vous avez donc cette idée, en ce qui concerne le salut, que Christ peut respecter la loi à votre place, mais aussi cette idée que nous sommes sous la grâce. Les chrétiens sont sous la grâce, donc la loi ne nous lie plus. Les commandements sont donc facultatifs. Maintenant, quand vous dites cela, c'est comme si vous disiez « Oh, attendez une minute ». Mais les commandements sont effectivement facultatifs parce que nous sommes sous la grâce. Mon frère, vous devriez voir le thème qui se dessine ici, et je l'ai mentionné plus tôt. Le diable essaie sans cesse d'empêcher les gens d'obéir à Dieu. Je ne veux pas que ces gens obéissent à Dieu. Je ne veux même pas qu'ils pensent que c'est possible. Je ne veux même pas qu'ils pensent que Dieu souhaite qu'ils lui obéissent parce que c'est le diable qui parle. Parce que je ne lui obéis pas. J'ai donc besoin que les autres ne lui obéissent pas non plus. Et c'est de là que vient cette interprétation erronée, ce mythe du salut. Ce n'est pas une coïncidence. Mais cette idée d'être sous la grâce devient une licence pour pécher. Romains 6. C'est un verset utilisé pour répandre cette confusion. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, mais vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Vous voyez, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et ils prennent ce verset et en concluent que la loi a dû être abolie. Mais ce n'est pas ce qu'enseignait Paul ou la Bible. Commençons par le début de ce même chapitre. Tout est question de contexte. Dans le même chapitre, Romains 6, verset 1, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Eh bien, il a sorti le grand jeu. Il enseigne. Dieu utilise Paul pour enseigner à l'église de Rome, et aux chrétiens qui ont suivi, ce qu'est la grâce et son importance. Il a donc continué, mais il dit ensuite, « Bon, maintenant vous comprenez ce qu'est la grâce. Mais est-ce que je dis que nous devons continuer à pécher afin que la grâce abonde ? Dieu nous en préserve. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Comment nous qui sommes morts au péché pourrions-nous continuer à vivre dans le péché? Nous devons cesser de pécher. C'est très clair. Dieu nous en préserve. Il a répondu à la question, Et il l'a fait avec passion. Dieu nous en préserve. Il dit que nous ne sommes pas sous le coup de la loi, pourquoi ? Parce que nous avons été pardonnés et que nous avons reçu le pouvoir d'obéir. Et cela vient de la grâce. La peine prévue par la loi est la mort. Nous ne sommes plus sous le coup de la peine de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous connaissez le verset. Nous ne sommes plus sous le coup de la peine de mort. Nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour vivre dans le siècle présent de manière sobre, juste et pieuse. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas simplement dire que nous sommes sous la grâce, ou permettre aux gens de dire que nous prétendons être sous la grâce. C'est ce que les églises de ce monde comprennent mal. Nous comprenons que nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde actuel. Est-ce possible ? Dieu nous demande-t-il donc, à travers Tite, de faire quelque chose d'impossible, à travers le livre de Tite ? Eh bien, il est clairement possible de vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde actuel, aussi difficile que cela puisse être. Nous devons renoncer aux choses de ce monde, frères, qui vont à l'encontre d'une vie sobre, juste et pieuse. La grâce nous enseigne à vivre dans la justice, et non dans l'anarchie. Hébreux 10. Hébreux 10. La grâce nous enseigne en fait à vivre dans la justice, et non dans l'anarchie. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous connaissons donc la vérité de Dieu. Nous la comprenons. Nous savons ce que nous faisons. Si nous péchons volontairement après cela, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mes frères, le plan de Dieu est en marche. Il a envoyé son Fils innocent mourir. Christ s'est incarné. Il a été torturé. Il est mort. Tel est le plan. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. C'est ainsi. C'est tout. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires. Je ne fais que lire les Écritures. Le jugement et l'indignation ardente qui dévoreront les adversaires. Donc, cela lie ce péché volontaire, ce rejet de la connaissance de Dieu, bien que vous la connaissiez, ce péché volontaire, ce à quoi nous devons nous attendre, c'est le jugement et l'indignation ardente qui vont dévorer ceux qui ont rejeté Dieu. Cela contredit directement cette idée d'être sous la grâce. Imaginez que quelqu'un soit gracié pour un crime. Je me souviens avoir entendu cela lors d'un baptême, pendant la préparation au baptême, une version de cela. Mais imaginez être gracié pour un crime. Le juge efface votre casier judiciaire et vous obtenez une seconde chance. Vous savez quoi ? Je vais vous donner une seconde chance. Les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Je vais vous donner une autre chance. Je vais effacer votre casier judiciaire. Maintenant, que devrait faire cette personne ? C'est un moment extraordinaire. Ce juge a effacé son casier judiciaire. C'est comme si elle n'avait rien fait. C'est un moment extraordinaire. Que devrait faire cette personne ? Devrait-elle être plus reconnaissante et dire, « Vous savez quoi ? J'ai frôlé la mort. J'ai failli être condamné et puni pour ce que j'ai fait, mais j'ai eu une seconde chance. Le juge m'a donné une seconde chance. Que vais-je faire maintenant ? Vais-je être reconnaissant, Où vais-je accepter cette grâce, pardonner aux autres et obéir à la loi? Je m'en suis sorti. Je vais m'améliorer, où vais-je retourner à la criminalité et dire, vous savez quoi? Je suis sous le coup de la grâce maintenant. Le juge a pardonné mes péchés passés. Je peux sortir et faire tout ce que je veux. La réponse est évidente. Cette grâce a donné à cette personne une nouvelle vie, mais elle ne lui donne pas le droit de repartir et de pécher davantage. Mes frères, nous devons accepter la grâce que Dieu nous a donnée, sortir et ne plus pécher. Ne plus pécher. La grâce et la loi ne sont pas ennemies. Elles ne sont pas en concurrence l'une avec l'autre. Elles travaillent ensemble. Elles travaillent ensemble. La grâce n'annule pas l'obéissance. Elle la rend possible. Elle nous aide à être plus reconnaissants pour ce qui se trouve devant nous. Avant d'aborder le dernier mythe sur le salut, passons en revue le dernier mythe de notre liste. Une épée peut-elle trancher une autre épée ou une balle en plein vol? Faux. Faux. Même les épées les meilleures et de la plus haute qualité se briseront si vous les frappez assez fort contre une autre épée. Et vous ne pouvez certainement pas couper une balle avec une épée sans endommager cette épée. Cela n'existe que dans les films. Comme pour les autres, je ne tenterai pas l'expérience. N'essayez pas cela chez vous. Les vraies épées ne sont pas indestructibles. Mythe numéro 7. Les sauvés vont au paradis. Les sauvés vont au paradis. Mes frères, nous connaissons celui-ci. C'est probablement l'idée la plus répandue de toutes, cette idée du salut, cette incompréhension du salut. Mais pour ce qui est des sauvés qui vont au paradis, nous avons un livret qui en parle. Je crois qu'il a un titre similaire, « Les sauvés vont au paradis ». Il pose la question. Mais à chaque service funéraire, quelle que soit la vie que la personne a menée, vous entendrez souvent des phrases telles que « Ils sont dans un endroit meilleur maintenant » ou « Ils sont auprès de Dieu ». Même si la personne a rejeté Dieu, n'a pas vécu avec Dieu, ou a peut-être fait une confession sur son lit de mort, peut y rire, et a donné sa vie à Dieu sur son lit de mort, cette personne est maintenant avec Dieu au paradis pour toujours. Et c'est une mauvaise compréhension de versets comme 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5, 8. Nous pouvons ouvrir notre Bible à cet endroit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Nous sommes persuadés, dis-je, et nous préférons être absents du corps et présents auprès du Seigneur. Ainsi, lorsque nous mourrons, cette idée que lorsque nous mourrons, nous sommes présents auprès du Seigneur au ciel. Maintenant, c'est certainement vrai. Paul préfère être absent du corps et présent auprès du Seigneur. C'est vrai. Mais cela viendra après sa résurrection. Ce n'est pas là où il se trouve actuellement. C'est après sa résurrection. Ecclésiaste chapitre 12, un autre verset qui est déformé. Et vous aviez l'habitude de dire, oh, eh bien, les sauvés sont au ciel. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était. Donc, quand vous mourrez, vous retournez à la poussière. Et l'Esprit retournera à Dieu qui l'a donné. L'Esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Les sauvés sont au ciel. Les portes nacrées, les nuages cotonneux. Vous savez comment cela se passe. Eh bien, l'Esprit de l'homme retourne effectivement à Dieu. C'est vrai. Mais cet esprit est comme en sommeil. Il est en sommeil. Il est auprès de Dieu, mais il est en sommeil jusqu'à quand? Encore une fois, jusqu'à la résurrection. Cette idée d'une âme immortelle s'envolant vers le ciel lorsqu'une personne meurt n'est pas vraie. Jean 3. Jean 3. Jean chapitre 3 verset 13. Jean 3, 13. Et personne n'est monté au ciel. Mais celui qui est descendu du ciel, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce verset a été écrit, a été prononcé après la mort d'hommes fidèles, comme Abraham, Isaac, Jacob, Daniel. Donc, selon les Écritures, ces hommes fidèles ont tous vécu et sont tous morts, mais le verset dit que nul n'est monté au ciel. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oui, Jésus est descendu du ciel, mais nul n'est monté au ciel. Comment est-ce possible? Job chapitre 14. Le chapitre 14 de Job est lu lors des funérailles dans l'église de Dieu. C'est une véritable révélation si vous le comprenez. Job chapitre 14. Beaucoup de ceux qui assistent à des funérailles dans l'église de Dieu, qui ne sont pas membres, entendent peut-être ce verset pour la première fois. Et il y a beaucoup à comprendre ici. Job verset 14. Verset 14. Job 14. 14. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de mon temps fixé, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Remarquez qu'il est dit, si un homme meurt, revivra-t-il? Je pensais qu'il allait au ciel. Non, revivra-t-il? Cela signifie qu'il n'est pas vivant. Il doit revivre. À un moment donné, il y a un moment où cet homme vivra à nouveau. Il n'est pas au ciel pour l'instant. Malgré le salut et le fait d'être sauvé. Je dirais certainement que Job était qualifié pour le salut. Mais il parle de vivre à nouveau. À un moment déterminé. Le changement vient, un changement doit venir. Cela ne se produit pas au moment où une personne meurt. Job savait qu'il ressusciterait. Il savait que son âme immortelle n'allait pas s'envoler pour être avec Dieu au ciel pour toujours. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Mes frères, je suis sûr que vous prenez bien des notes. Ce sont de bons versets à revoir alors que nous revenons aux fondamentaux des enseignements et des doctrines très importants de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Je suis désolé. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Dieu descendra donc du ciel avec un cri, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ceux qui sont morts en Christ sont donc morts. Ils doivent ressusciter. Les fidèles sont morts. Ils doivent ressusciter. Ils ne sont pas au ciel avec Dieu pour l'instant. Considérez la mort comme un sommeil. Nous avons entendu parler de ce sommeil en Christ. Si vous avez déjà fait une sieste, si vous vous êtes déjà endormi, je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, que vous avez déjà goûté à ce que c'est. Lorsque vous dormez, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui se passe. Puis vous vous réveillez, et devinez quoi? Vous vous réveillez. Et les choses continuent exactement comme elles étaient lorsque vous vous êtes endormi. C'est ce que signifie dormir en Christ. Lorsque les saints recevront un nouveau corps et reviendront, ils se réveilleront, et ce sera comme s'ils avaient simplement dormi. C'est la vérité de la Bible. C'est la vérité de la Bible. Le paradis après la mort n'est pas le plan que Dieu a en tête. Mais Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce que Dieu a en tête? Au début de son ministère, Christ est encore en train de s'établir comme le Fils de Dieu, le représentant de Dieu. Lui-même étant Dieu, bien sûr. Matthieu chapitre 5, verset 5. Dans les béatitudes. Matthieu 5, 5. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le but est d'hériter la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Et il a fait de nous, éternuement, excusez-moi, et il a fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu. Voilà donc notre avenir, de nouveaux corps dans la famille de Dieu. Rois et prêtres, et nous devrons, en tant que rois et prêtres, en tant que membres de la famille de Dieu, que devrons-nous faire? Et nous régnerons sur la terre. Maintenant, c'est intéressant quand on pense au ciel et à la proximité du ciel, et où se trouve le ciel, et maintenant il est tellement plus proche que ce que nous comprenions auparavant. C'est intéressant. De toute évidence, nous aurons accès au ciel avec nos nouveaux corps et en tant que membres de la famille divine des. Mais tout cela est encapsulé dans et autour de la terre. Cela ne vous parle-t-il pas différemment maintenant quand on dit que nous hériterons de la terre? Cela fonctionne avec cette compréhension que le ciel n'est pas un endroit lointain où réside Dieu. Ainsi, les sauvés à leur mort ne s'envolent pas vers le ciel. Ils sont morts jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités et qu'ils aient l'occasion, comme nous, frères, de régner sur la terre avec le Père et Christ dans son royaume. Ainsi, frères, nous avons brisé cette mythe majeure concernant le salut. Nous avons vu que ce n'est pas un événement unique. Le salut n'est pas quelque chose qui peut être gagné. Il n'est pas automatique. Nous ne le terminons pas en flottant simplement vers le ciel. Ce n'est pas cela, le salut. Et voici la partie encourageante. Tout cela est encourageant. Mais ceux qui ont été dans l'Église de Dieu, frères, nous comprenons cela. Ceux qui sont entrés dans l'Église de Dieu commencent à comprendre cela et continuent à le comprendre. Ce qui est extraordinaire dans tout cela, ce n'est pas le fait de comprendre le véritable salut, ou ce qu'est le salut. C'est le fait que nous le savons, le fait que nous pouvons le comprendre, nous, pauvres gens qui ne savons rien, qui sommes simplement les faibles de ce monde, les gens que l'on rejette, les gens que l'on ignore, les gens qui n'ont aucune idée. Vous allez à cette fête où vous observez ce sabbat, vous portez des costumes, vous ne vous maquillez pas et vous faites toutes ces choses. Vous ne fêtez pas Noël. Vous observez ces jours étranges. Frères et sœurs, nous savons cela. Ce sont des choses que nous savons. Nous ne pouvons pas les tenir pour acquises. À quand remonte la dernière fois? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour remercier Dieu de vous avoir fait comprendre ce que signifie le salut? À quand remonte la dernière fois où vous avez fait cela? Eh bien, si cela fait longtemps, prenez le temps. Arrêtez-vous, faites une pause, remerciez Dieu pour la compréhension du salut et de son plan. Prenez le temps de remercier Dieu pour cela. C'est une compréhension extraordinaire, incroyable, tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous aurions pu vivre bien plus encore. Revenez au chapitre 2 de Philippiens, alors que nous commençons à conclure. Philippiens chapitre 2. Remerciez Dieu pour cette compréhension du salut. Philippiens chapitre 2. Je voudrais vous laisser avec quelque chose d'encourageant. Philippiens chapitre 2, verset 12, où nous avons lu cela plus tôt. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous avez donc cette idée, oh, la crainte, le tremblement, oh, le salut, tout est en jeu. C'est une pression. C'est beaucoup de pression. Si je n'y arrive pas, oh, je dois y arriver. Crainte et tremblement, n'est-ce pas? Vous avez cette idée-là. Eh bien, continuons à lire. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Mais cela signifie ici que Dieu Tout-Puissant agit en nous et nous donne la volonté de le faire, le pouvoir de le faire, et que c'est son bon plaisir de le faire. Il veut le faire. Oui, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne la volonté et la puissance de le faire, et cela lui procure du plaisir. Dieu est satisfait. Il est heureux de nous aider à travailler à notre propre salut. Il est heureux de nous aider à lui obéir, tout d'abord en comprenant ce qu'est réellement le salut, et en acceptant ce don qu'il nous a donné grâce à ses grâces en traitant nos péchés passés, en nous aidant à être sanctifiés dans notre état actuel, et finalement en nous glorifiant. Cela lui procure du plaisir. Pensez à Miss Busters, cette émission avec laquelle nous avons commencé. Chaque épisode se terminait par une conclusion claire. Il était clairement établi que le mythe était réfuté ou confirmé. Passons à un dernier passage des Écritures. De la même manière, nous terminerons de la même manière, avec clarté. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Ainsi, l'entrée vous sera largement accordée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons être clairs. Nous pouvons être clairs. Assurez-vous de votre vocation et de votre élection. Vous avez vu ce qu'est le salut et ce qu'il n'est pas. Ne vous contentez pas d'admirer la vérité. Agissez en conséquence. Vivez-la. Terminez la course.